Eh bien aujourd'hui, j'ai souhaité donner la parole à Fabien Wald, membre du collectif Défendre les enfants. Ce regroupement d'associations milite pour les droits de l'enfant, l'égalité parentale et une réforme en profondeur de la justice familiale. Ensemble, nous revenons sur leurs engagements de terrain, la proposition de loi 819 sur la résidence alternée et les réalités vécues par de nombreuses familles après une séparation. Eh bien pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter le collectif Défendre les enfants ?
Oui. Bonjour Tony, merci. Donc le collectif Défendre les enfants. Donc nous, on regroupe une douzaine d'associations et de collectifs engagés pour la protection des droits des enfants, des parents et aussi des grands-parents. En fait, on milite surtout sur trois thématiques. La promotion de la résidence alternée, sur la lutte contre le dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, donc l'ASE, et la reconnaissance de l'exclusion parentale après une séparation. Donc, je peux te lister rapidement quelques-unes des associations qui sont membres de ce collectif. Il y a notamment Droits du parent et de l'enfant, donc c'est DDPE, c'est fondé en 2017 par Gaëlle Costomeignier, qui était notre tête de liste aux européennes. Donc j'ai oublié de préciser, donc le Défendre les enfants, en fait, on était engagés aux européennes l'année dernière, et depuis on poursuit notre engagement sur ces trois thématiques-là. T'as aussi Racines d'enfants, je sais pas si t'as entendu parler, c'était issu du collectif de la Marche pour l'égalité parentale. Donc c'est plusieurs parents qui ont marché 1200 km entre Marseille et Paris, puis l'année suivante entre Paris et Strasbourg pour promouvoir les bienfaits d'égalité parentale. Et donc je te disais aussi qu'on regroupe plusieurs associations pour les grands-parents. Donc tu as notamment Mamie Papy Chagrin, tu as aussi des associations pour aider les familles qui font face aux enfants placés, donc tu as l'APEP, l'association des parents d'enfants placés. En grosse association, tu as aussi Égalité Parentale, qui existe depuis 2007, qui ont rédigé plusieurs propositions de loi depuis plus de 15 ans. T'as J'aime mes deux parents, de mémoire, il me semble que c'est une association du nord de la France, de Lille, mais je me trompe peut-être, donc j'espère qu'ils me corrigeront. Mmh. Une autre association de défense pour les grands-parents, c'est Nous voulons voir nos petits-enfants. Et après, t'as des groupes de travail, donc groupe d'études sur les sexismes, le GES, qui est assez connu aussi, qui date de 2008. Enfin, je vais peut-être pas tout te lister, mais en gros, on est une douzaine d'associations.
Alors, ça fait énormément de monde. Et quelles sont vos principales actions ?
On est parti aux européennes, donc c'était déjà nous rassembler. On a aussi à fédérer ces 12 associations. Je peux citer quelques exemples. On a milité donc sur la thématique 3, sur l'exclusion, pas l'exclusion parentale, mais sur la reconnaissance de l'exclusion parentale. Il y a souvent ce qu'on appelle les violences intraconjugales. On a lancé une pétition, par exemple, sur l'extension du 3919. C'est une ligne téléphonique qui est dédiée aux violences conjugales, qui a été lancée par la FNSM, Fédération Nationale Solidarité Femmes. Et le problème, c'est que, en fait, je ne dirais pas qu'ils acceptent que les appels de femmes, mais en fait, les appels d'hommes ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas redirigés vers les bonnes associations parce qu'aucune association derrière la Fédération Solidarité Femmes n'accepte les appels d'hommes. Donc, on a lancé une pétition qui a recueilli facilement plus de 10 000 personnes, parce que c'est vraiment un sujet d'actualité, les violences faites aux hommes. Et on a réussi à faire poser 4 questions au gouvernement par 4 députés, là, très récemment, il y a un mois ou deux. On a rencontré Aurore Berger là-dessus, qui nous dit, mais qui pour elle, entre guillemets, nous disait, mais si, ça marche aussi pour les hommes, mais en fait, c'est pas vrai. Mais elle n'était pas encore ministre pour l'égalité, c'était en fin 2024 qu'on l'a rencontrée. C'était la période où elle n'était plus au gouvernement. Donc là, maintenant qu'elle est retournée ministre de l'égalité, on a hâte de voir sa réponse aux 4 députés qui ont posé la question sur l'extension de 3919 pour les hommes. Surtout que Madame Lenagour, qui est une députée République En Marche, avait déposé un amendement dans le projet de loi de finances 2025 pour justement abonder le budget, parce que c'est 6 millions d'euros par an, le 3919. Ah ouais. Et en fait, on demandait 1 million d'euros, enfin, la députée demandait 1 million d'euros supplémentaires pour justement prendre des appels d'hommes. Je dirais pas que c'était rejeté, mais c'est à cause du 49-3. Ça n'a pas été discuté, donc du coup, c'est passé à la trappe. Donc on espère. Voilà une des actions. L'autre action qui a le vent en poupe ces temps-ci, c'est on a réussi à faire déposer une proposition de loi sur la résidence alternée. Donc c'est la 6e ou 7e depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence, donc depuis 2017. Le problème, c'est qu'aucune n'a été débattue à l'Assemblée nationale. Donc c'est la PPL, ce qu'on appelle 819, donc c'est son numéro. Bon, on va en discuter tout à l'heure, je pense, mais typiquement, celle-là, c'est vraiment une action de terrain. On a rencontré la députée, on a corrigé avec elle cette proposition de loi, notamment avec l'association Égalité Parentale. Et surtout, enfin, on en parlera aussi tout sûrement après, on a réussi à la faire co-signer par 75 parlementaires. Donc là, typiquement, on est vraiment sur des actions de terrain, et surtout pour modifier la loi, pour faire en sorte que la résidence alternée soit mieux appliquée en France ou plus appliquée en France.
Alors justement, les objectifs principaux de la PPL 819, c'est ça en fait, c'est pour une meilleure égalité parentale, c'est pour la résidence alternée.
Ouais, c'est ça. Pour resituer un petit peu, t'as environ par an 350 000 couples qui se séparent. Donc c'est pas rien.
Ouais, c'est énorme.
Et le taux de résidence alternée en France, il est un des plus bas. En Europe, c'est 11,4%, voire 12%, c'est suivant les études, mais en gros, on avoisine les 12%. Et le taux de résidence chez le père est largement inférieur que chez la mère aussi. Donc c'est 76% chez la maman. Ce sont des chiffres, donc j'essaye de me souvenir, je crois que ça vient de l'adresse. L'adresse, c'est la direction de recherche des études d'évaluation des statistiques. Donc ça dépend du ministère sanitaire et sociaux. Donc c'est vraiment c'est la source gouvernementale. Hein. C'est pas des études faites à droite ou à gauche. Donc c'est vraiment des sources du ministère. Les objectifs principaux, ça vise à garantir une meilleure égalité parentale après une séparation. Ça renforce la résidence alternée et ça limite les situations où l'un des parents est injustement privé de son enfant. En fait, ça cherche simplement à favoriser l'intérêt supérieur de l'enfant en préservant le lien avec ses deux parents. Souvent, entre guillemets, quand il y a séparation des parents, bah, malheureusement, ça arrive un peu trop souvent, mais je dirais même très souvent, qu'il y a une rupture de contact entre un des parents et ses enfants.
Est-ce que c'est une loi qui impose systématiquement la résidence alternée ?
Non, et ça en fait c'est les premiers retours qu'on a justement, on nous pose la question, mais c'est automatique ou c'est pas automatique ? Non, la PPL 819 ne rend pas automatique la garde alternée. C'est important que ça rentre bien entre guillemets pour nos auditeurs, ça rend pas la garde alternée obligatoire, mais ça la place comme principe de base, c'est-à-dire qu'un juge, quand il va arriver en audience avec les conclusions de chacune des parties, par défaut entre guillemets, c'est la résidence alternée, et après c'est aux parents de justifier pourquoi ils demandent la garde principale chez soi s'ils refusent la garde alternée. Là on est vraiment dans en fait le principe de base, on veut que ce soit la résidence alternée qui est discutée par défaut, et après, derrière, s'il y a une raison légitime de mettre la résidence principale, chacun des parents doit justifier pourquoi il demande la garde principale chez soi.
Alors, pourquoi cette loi est nécessaire alors qu'un juge peut déjà décider de la résidence alternée ?
Bah, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que 11,4% ou 11,5% ou 12% de résidence alternée en France, c'est beaucoup trop peu. Toujours par rapport à l'adresse, je vais te citer un tableau. 12% des enfants de moins de 6 ans qui vivent en famille monoparentale, donc ça concerne 517 000 enfants. 25%, donc soit 130 000 enfants environ, n'avaient plus de contact avec leur père. Donc c'est pas rien. Si tu lis, entre guillemets, le texte de la PPL, tu verras qu'il y a une corrélation aussi entre, je dirais, le taux de suicide. Parce qu'en fait, bah, y a des parents qui pètent des plombs, de certaine façon. Enfin, j'emploie un mot à terme assez fort, mais c'est vrai, les suicides des pères, c'est quelque chose qui existe, c'est pas un sujet tabou, hein, qui ne voient plus leur enfant, les mères aussi qui voient leurs enfants placés, enfin, c'est vraiment un sujet qui mérite d'être discuté, et justement cette PPL-là permettrait, entre guillemets, de limiter ces impacts-là. T'as aussi des constats que souvent, ben c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des études, le taux de délinquance est un peu plus fort dans les familles monoparentales, où il y a une rupture de contact avec un des parents. Voilà, c'est un constat, c'est pas moi qui le dis, ce sont les études, c'est mis dans le texte de la PPL. Et surtout, c'est très rare d'avoir des études sur, entre guillemets, les résidences principales, le pourcentage des résidences principales chez le papa, chez la maman. Et en fait, la dernière étude qu'on a du ministère de la Justice, elle date de 2012. Et nous, on aimerait, entre guillemets, que le ministère nous ressorte les véritables chiffres. Parce que, en fait, on a vraiment cette impression-là, en tout cas sur le terrain, que ça s'est aggravé par rapport à 2012. Donc c'est vraiment nécessaire que cette PPL puisse au moins être débattue ou discutée à l'Assemblée pour justement mettre carte sur table sur ce qui se passe réellement en France.
Est-ce que cette loi favorise un parent au détriment de l'autre ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Ça aussi, c'est bien de dire des contre-vérités. Donc, elle repose sur un principe d'égalité. Justement, ça vise à éviter que des décisions judiciaires reposent sur des stéréotypes de genre. Chaque parent, donc un papa ou une maman, ou même ça peut être aussi deux personnes du même sexe, hein, parce que maintenant, on peut être parent aussi en étant du même sexe, on est tous considérés sur un pied d'égalité. C'est le principe de base de cette proposition de loi.
Cette proposition de loi met-elle en danger les enfants en cas de violence domestique ?
Non, justement non. La PPL 819 maintient les protections existantes contre les violences conjugales et infantiles. Si des violences sont avérées, la garde alternée n'est pas appliquée. Cette PPL 819 ne change absolument rien sur ce qu'on appelle les ordonnances de protection. Les mesures provisoires, entre guillemets, quand il y a une violence avérée d'un parent sur un enfant, ça ne change absolument rien. Là, on parle vraiment des décisions judiciaires sur la résidence des enfants. Donc ça ne change absolument rien sur l'effet de violence, sur les ordonnances de protection immédiates, parce que maintenant ça existe aussi depuis quelques mois, l'ONPI, ça ne change rien.
Qu'aurais-tu à répondre à ceux qui affirment que cette loi prive les maires de leurs droits ?
Eh ben non, c'est faux aussi. Cette loi ne retire absolument aucun droit aux maires. Elle vise simplement à garantir que les deux parents puissent exercer leur rôle. L'objectif, c'est d'assurer une continuité éducative pour l'enfant avec ses deux parents. Donc, j'avais parlé tout à l'heure de l'enquête du ministère de la Justice. Ça démontre notamment que sur l'ensemble des demandes de garde, hein, 35 à 37,5% des pères demandent la garde principale ou la résidence alternée de leur enfant. Toutes les décisions judiciaires, mais en cas de désaccord, donc quand les parents ne s'entendent pas entre guillemets sur le mode de garde, le juge prononce dans 63% des situations une résidence chez la mère, alors que même que 95% des pères demandent une résidence principale ou une garde alternée. Bon, cette étude, qui a quand même déjà plus de 13 ans, hein, elle prouve que les pères sont beaucoup plus nombreux à demander la résidence alternée qu'il est souvent entendu dans les médias. Le fameux 80% ou 70% des pères ne demandent pas la garde, bah c'est pas vrai. En fait, il suffit de lire cette étude-là du ministère de la Justice, hein, donc c'est pas une étude dans un coin, c'est vraiment une source officielle. Cette discrimination ne s'applique aussi quand ce sont les mères qui font les demandes de résidence alternée. Hein. Donc c'est aussi dans les deux cas. Hein. Donc quand il y a une mésentente, voilà, donc c'est pas, le principe d'équité n'est pas respecté.
Alors quelles sont les protections pour éviter les manipulations ou instrumentations ?
Bah justement, c'est un principe de base, c'est-à-dire que quand tu arrives devant le juge avec cette nouvelle loi, de fait c'est la garde alternée entre guillemets qui est par défaut. On peut pas entre guillemets arriver en disant bon, je ne veux la garde principale chez moi parce que je considère que le parent est défaillant, etc. Bah oui, mais en fait, il faut prouver tout ça. Alors que une simple suspicion peut suffire entre guillemets à un juge pour se pencher. Bah là, maintenant, en fait, il faut être plus factuel. Le principe d'équité sera beaucoup plus respecté. Donc, on peut plus vraiment instrumentaliser ou manipuler ou utiliser entre guillemets le système judiciaire par des fausses, des dénonciations calomnieuses ou des fausses accusations. Justement, c'est la garde alternée entre guillemets qui est discutée à la base. Et après, il faut justifier pourquoi tu demandes la garde principale chez soi.
Alors pourquoi cette loi a été soutenue et initiée par le collectif Défendre les enfants ?
Donc c'est, pour rappel, Défendre les enfants, on était aux européennes. On a voulu y être aussi il y a quelques années, mais en fait, Gaël Costominier, qui c'était son idée à lui, hein, il y a quelques années déjà, on n'avait pas réussi à monter tous les dossiers puisqu'il fallait avoir 80 dossiers. Ils avaient déposé les dossiers trop tard pour les européennes 2017. Je ne sais plus si c'est tous les 5 ans ou tous les 7 ans les européennes. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Parce qu'en fait, cette loi, elle répond à une nécessité. De nombreux enfants souffrent de l'éloignement d'un parent près de séparation. C'est ce qui est mis dans la PPL. Sur justement le taux de suicide, le taux de délinquance, etc. Donc il y a une corrélation. On ne peut plus le nier maintenant. C'est un fait. Et surtout, cette PPL, elle est née d'une rencontre avec Madame Christine Nabo, donc c'est une députée République En Marche, qui est une députée bretonne, et ça a permis d'engager un dialogue concret parce qu'elle était déjà entre guillemets affectée par l'égalité parentale. Elle avait déjà participé, elle n'a pas fait la marche des parents en 2020-2021, mais en tout cas elle était à l'arrivée de la marche des parents, et voilà, c'est quelque chose qui lui parle beaucoup. Il ne faut pas oublier que Madame Le Nabour, elle est vice-présidente de la délégation aux droits des enfants à l'Assemblée nationale. Donc c'est Perrine Goulet, qui est députée MoDem, qui est présidente de la délégation aux droits d'enfants, et les deux, enfin Madame Perrine Goulet, elle a co-signé ce texte-là aussi. Donc sur les 75 parlementaires, on a quand même la présidente de la délégation aux droits de l'enfant et sa vice-présidente qui ont co-signé ce texte. Et il ne faut pas oublier que ce texte-là, ça a été un travail de fond qui a été fait aussi par notamment l'association Égalité Parentale, où justement, eux, ils avaient déjà corrigé plusieurs PPL par le passé. Donc ce n'est pas un texte qu'on a sorti du chapeau, c'est un vrai travail de fond, hein. Sourcé, j'invite tout le monde à le lire. Il suffit de taper PPL 819 dans Google, vous allez le trouver sur le site de l'Assemblée nationale, et j'invite tout le monde à le lire, c'est vraiment très intéressant.
Alors quelles sont justement les études ou preuves qui soutiennent cette approche ?
Moi je ne suis pas là pour faire entre guillemets une bataille d'expertise, etc. sur les différentes études. Déjà ce n'est pas vraiment mon domaine, parce que moi je suis informaticien, hein, je ne suis pas du tout psychologue, psychiatre, psychanalyste. Par contre, il y a énormément d'études qui prouvent, entre guillemets, l'intérêt supérieur de l'enfant par la mise en place d'une résidence alternée. Je vais juste renvoyer vers deux pointeurs. Vous tapez justice-familiale.fr. Tout en haut, vous allez choisir science. Vous allez retrouver toutes les études sur la résidence alternée. Autrement, vous allez sur notre site, donc c'est défendre-les-enfants.eu. Pareil, vous avez un onglet qui doit s'appeler publication. Vous cliquez dessus, vous avez résidence alternée. Vous cliquez dessus et là, vous arrivez sur toutes les études. Comme je veux dire, c'est vraiment sourcé. On est très complet, on est très factuel. Voilà, donc c'est important que chacun, pour se forger sa propre opinion, puisse consulter toutes ces différentes études.
Est-ce que tu peux citer quelques soutiens politiques à la PPL 819?
Oui. Oui, effectivement. Alors, pour rappel, la PPL 819, elle a été déposée fin janvier 2025 par Madame Le Nabour. Au départ, ils étaient que 10 co-signataires. Après, on a essayé de faire connaître donc le collectif Défendre nos enfants, mais toutes les associations entre guillemets partenaires du collectif ont présenté ce texte à différents députés, ont démarché les députés, faire connaître la cause entre guillemets, et on s'est retrouvé à 75 députés deux trois mois plus tard, quoi. Donc c'est la première fois, c'est le record. Toutes PPL confondues sur la présidence cette année, on n'a jamais atteint ce nombre de co-signataires. Sachant qu'en plus, le jeu politique actuel fait qu'il y a trois blocs à l'Assemblée nationale, donc le bloc de gauche, le bloc central et le bloc de droite. Et Madame Le Nabour ne souhaitait pas avoir des co-signatures LFI ou Rassemblement national parce qu'elle avait peur de perdre, entre guillemets, plusieurs co-signataires du bloc central ou du PS. Donc nous, ça ne nous regarde pas. Hein. Nous, le collectif, on en parlera certainement tout à l'heure, mais le collectif Défendre nos enfants, on est apolitique. Sur les 80 candidats membres du collectif, il y a des gens de gauche, des gens de droite, des écolos, du RN, il y a de tout. Hein. Nous, on est vraiment purement apolitique. On est là juste pour défendre les trois thématiques. Donc je peux te citer sur les 75 noms des gens un petit peu connus, des députés un petit peu connus ou qui ont exercé des fonctions gouvernementales. Je peux citer Hervé Berville, qui était le secrétaire d'État chargé de la mer et de la biodiversité. Guillaume Casbarian, qui était le ministre de la fonction publique. Prisca Thévenot, qui a été la porte-parole du gouvernement. Stéphane Travert, qui était l'ancien ministre de l'Agriculture. Philippe Juvin, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'était un député qui a été candidat à la présidence de l'Assemblée nationale, donc comme LR. Agnès Lefermin-Lebaudeau, qui était l'ancienne ministre de la Santé. Et Stéphanie Rist, qui est vice-président du groupe Ensemble pour la République, donc du groupe majoritaire. Voilà, donc c'est pas n'importe qui, c'est t'as 75 députés et des anciens ministres, des anciens candidats à la présidence de l'Assemblée nationale. Bref, c'est preuve en est que que le message porte ses fruits et que ils sont tous accordés pour co-signer ce texte parce que t'as 9 co-signataires PS, 9 co-signataires Modem, 8 ou 9 Horizon, du Lyot aussi, des Sans Étiquette, République En Marche, et sachant qu'en plus, on a eu des co-signataires RN qui voulaient co-signer, mais Madame Le Nabour n'a pas souhaité, mais c'est son choix, mais on avait aussi des parlementaires RN qui étaient prêts à co-signer ce texte.
Comment vous répondez aux accusations de lobby masculiniste?
Ah oui, ça, on remarque que, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais même pas pourquoi ça sort. J'ai lu ça aussi, effectivement. Pour nous, c'est vraiment un argument fallacieux. Hein. Je vais essayer d'être factuel. Défendre les enfants, on est paritaire. Moitié homme, moitié femme. Voilà. Rien que ça, déjà, ça devrait suffire, entre guillemets, à montrer qu'on est en rien masculiniste. Je rappelle aussi que défendre les enfants, on est apolitique. On est associé à rien d'autre qu'à nous-mêmes, d'une certaine façon. Donc, aucun lobby masculiniste ou quoi que ce soit. Alors, peut-être que ça sort parce qu'on parle du droit des pères, et on veut associer le droit des pères au lobby masculiniste, mais rien, ça n'a rien à voir. Et puis surtout, quand on dit être féministe, ce serait positif, et être masculiniste, en quoi ce serait négatif dans ces cas-là? Là, je fais vraiment, entre guillemets, mon psychologue de comptoir, mais pourquoi un terme serait plus péjoratif que l'autre, en fait? Mais en tout cas, une chose est sûre, on n'est en rien masculiniste, en rien du tout. Au contraire, on veut l'égalité et l'équité.
Ouais, c'est des accusations qui reviennent souvent quand on a cours d'arguments, ça, ou d'extrême droite aussi, j'ai lu.
Ouais, c'est ça, c'est vrai aussi. Et pourtant, nous, on a démarché tout le monde, c'est très simple, il suffit d'aller cliquer sur la rubrique actualité de notre site internet et vous verrez, on a rencontré du PS, du RN, République En Marche, du Modem, on a rencontré tous ceux, entre guillemets, qui étaient prêts à nous recevoir, on les a rencontrés, parce qu'on a demandé des rendez-vous, et on a démarché tout le monde, quoi. On n'a fait aucun sectarisme, c'est le jeu. Après, c'est le jeu des associations collectives qui sont opposées à résidence alternée. Mais En tout cas, nous, on est transparents sur tout. On affiche tout ce qu'on fait.
Alors, je suppose qu'il y a plein d'auditeurs et d'auditrices qui sont directement concernés par cette PPL. Comment ils peuvent apporter leur soutien à cette proposition de loi?
Oui, effectivement, parce que sur les 75 signatures, t'as beaucoup de... nous, on en a réussi à obtenir à travers Défendre nos enfants, égalité parentale, racine, à travers les assos qui ont démarché les députés, mais t'as aussi, surtout, des personnes qui sont sur le terrain, qui ont rencontré leurs députés de leur circonscription, qui se sentent concernés, qu'on ne connaît pas, hein, et qui nous ont dit, j'ai réussi à convaincre un député, il a été touché. Donc, en fait, chacun, entre guillemets, peut apporter sa petite part à la cause. Alors, nous, on a su ça, on a mis sur le site internet un kit qui explique entre guillemets les enjeux de la PPL, qui rappelle l'historique. Donc il suffit d'aller vous taper kit parlementaire sur le site internet Défense des enfants, vous allez le retrouver. Bon, c'est pas grand chose, hein, c'est 2-3 pages qui expliquent l'historique des PPL. On a lancé des pétitions pour faire connaître la cause. Il y a déjà une pétition qui existe depuis quelques années sur l'égalité parentale qui est issue de la marche des parents de 2021-2022. Ils sont à plus de 40 000 signatures. Là, on a lancé récemment une sur spécifiquement sur la PPL 819. On est déjà à 2 000 signatures, donc franchement, je n'ai aucun doute du soutien, on va dire, populaire sur la cause. Et voilà, et surtout, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous si jamais vous voulez aussi qu'on vous oriente sur comment faire pour mener des actions pour justement rencontrer les parlementaires ou même médiatiquement parlant. C'est-à-dire qu'on a énormément de mal, entre guillemets, à faire parler de la cause dans les médias. Et puis, on essaie justement de parler un peu plus de la cause. Et on est preneur de tout, hein, de n'importe quelle sollicitation ou d'idée, on prend tout.
Est-ce que cette loi prend en compte les besoins spécifiques des tout jeunes enfants ?
Oui, comme je disais, en fait, ça ne change rien sur sur un juge, sur le pouvoir du décisionnaire du juge. Donc, l'intérêt supérieur de l'enfant reste primordial et les décisions de garde seront toujours prises en fonction du bien-être et du besoin spécifique de l'enfant. Donc, cette loi, elle n'impose rien au juge. Elle dit juste que par défaut, c'est la garde alternée. Si le juge considère que il vaut mieux qu'il soit chez la maman ou chez le papa, voilà, il a tout le loisir de le faire. Le PPL n'impose rien. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, ça n'impose pas. C'est juste que le principe de base, quand tu arrives devant le juge, par défaut, c'est une présomption légale de résidence alternée. Et après, il faut justifier pourquoi tu ne demandes pas la résidence alternée.
Est-ce que la PPL 819 impacte les pensions alimentaires ?
Non, pas du tout, ça n'a rien à voir, ça ne modifie pas le calcul des pensions alimentaires, non, parce que tu as aussi des pensions alimentaires qui sont versées même quand tu es en garde alternée, donc si un juge dit, il y a une garde alternée, il faut quand même qu'il y ait une disparité de revenus, donc du coup, ça ne change absolument rien. Après, si j'en profite pour dire un petit truc là-dessus, c'est que on a eu aussi un débat il y a quelques mois sur la défiscalisation des pensions alimentaires avec des députés qui voulaient pas co-signer le texte de la PPL 819 parce qu'ils avaient co-signé le texte sur la défiscalisation des pensions alimentaires. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, là, c'est si un député qui a co-signé le texte sur la défiscalisation, il est dur ce mot-là, sur les pensions alimentaires souhaite s'intéresser à la PPL 819, c'est vraiment deux sujets différents. Donc, ça, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Tu peux co-signer les deux textes.
Et que dit la législation des autres pays sur le sujet ?
La vérité par les chiffres. Tu peux aller sur le site justice-familiale.fr. En haut, tu cliques sur, statistique ou résidence alternée. Enfin bref, je ne sais plus. Je vais te citer les chiffres. 48% des résidences alternées en Suède, 40% en Italie, 37% en Belgique, 30% en Norvège. Voilà. Et nous, c'est 12%. En Espagne, je crois que c'est 30 aussi. Là, c'est factuel. On est vraiment en retard par rapport aux autres pays d'Europe. On est vraiment en retard.
Alors, certains affirment que les chiffres mentionnés dans la PPL 819 n'ont pas de source fiable.
Alors ça, pareil aussi, c'est une façon de décrédibiliser tout le travail. Justement, nous, on a tout rendu public. Tout est transparent. Donc, on a mis, entre guillemets, le rapport de l'association Égalité Parentale qui fait plusieurs dizaines de pages, où tous les chiffres qui sont mentionnés à la PPL sont sourcés dans ce rapport-là. Donc c'est très simple, vous allez sur le site défendre-des-enfants.eu ou dans la FAQ, parce qu'on a fait, on a créé une FAQ une fois à question, justement sur toutes les questions-réponses sur la proposition de loi 819, et où justement on donne les sources des chiffres, et on donne surtout le rapport de la session égalité parentale, qui lui-même est sourcé par des sources gouvernementales, par d'autres pays, enfin bref, tout est là-dedans. Donc il suffit simplement de cliquer et d'aller chercher l'information. Elle y est. Donc on ne peut plus vraiment être qualifié comme quoi c'est pas fiable. Si, c'est bien fiable.
Et pourquoi les médias ne relaient-ils pas davantage la parole des auteurs de la PPL 819 ?
Ça c'est une vraie question. C'est une vraie question. Nous, on a fait un communiqué de presse, forcément, quand la PPL a été déposée. On a écrit à 200 médias locaux et nationaux. Locaux, surtout les députés, les médias Ouest-France, etc., le journal de Vitry, enfin bref, même les journaux locaux dont dépendent les députés. Parce qu'on s'est dit, la moindre des choses, c'est de relayer, entre guillemets, l'actualité parlementaire de la députée circonscription pour moi avoir un article local. Et même ça, c'est pas sorti. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que très récemment, donc nous, quand on a fait le communiqué de presse, aucun article, Voilà, ça c'est factuel. On a eu sur les 200 courriels qu'on a envoyés, on a eu, à part des accusés de réception, on a eu aucun média qui s'est emparé du sujet. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques semaines, tu as deux collectifs qui sont opposés à les alternés, qui ont certainement dû faire un communiqué de presse, et leur communiqué a été repris par la Maison des Maternelles, donc c'est pas rien, c'est une émission sur France Télévisions, et par La Provence. Et c'est, ce qui est marrant, c'est que ces deux médias, à aucun moment, nous ont sollicité pour justement apporter, entre guillemets, une contradiction, parce que forcément, les deux collectifs, donc c'était Nous Toutes et j'ai oublié l'autre, c'est le collectif infantiste, donnent leurs arguments, mais en fait, la moindre des choses, quand un média qui est, entre guillemets, bah, essaie aussi d'apporter la parole, surtout de la parole du collectif ou de l'association qui a, entre guillemets, co-rédigé ce texte et qui a participé, entre guillemets, à tout ce travail-là pour justement avoir cette double contradiction, en fait. Donc c'est un petit peu dommage que les deux médias, entre guillemets, qui ont relayé cette PPL, ne le fassent que sous, entre guillemets, l'égide des opposants, et pas nous, ou même pas la députée elle-même. C'est dommage. Bon, après, c'est encore récent, donc je ne doute pas, enfin j'espère en tout cas, peut-être que cette émission, justement, va nous aider aussi également à faire parler de la cause, et qu'après, un média plus généraliste, plus national, s'empare de cette thématique et du sujet, parce que c'est vraiment important. Je rappelle quand même que cette PPL, c'est celle qui a obtenu le plus de co-signataires depuis que les propositions de loi sur les anciennes années existent. C'est le record. Enfin, le record avant, c'était une cinquantaine, je crois, par celle de Mme Doineau en 2022-2023. Enfin bref, ça mérite quoi, ça mérite un papier, ça mérite qu'on s'intéresse au sujet, ça mérite qu'on s'intéresse à la cause, tout simplement.
Et il est possible qu'elle soit étudiée prochainement, cette PPL ?
Alors c'est là qu'il y a ce qu'on appelle un agenda parlementaire, c'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, une semaine tous les 2-3 mois, quand je ne sais plus exactement, il y a ce qu'on appelle la semaine transpartisane, c'est-à-dire que c'est une semaine où des textes de loi transpartisans, donc c'est-à-dire co-signés par 58 parlementaires, sont discutés à l'Assemblée nationale. Et là, on avait obtenu on avait dépassé ce ratio de 58 députés, mais 24 heures trop tard. C'est dommage. Et du coup, on aurait pu, entre guillemets, être à l'agenda de l'Assemblée nationale pour un débat au mois de juin. Bon, c'est partie remise, hein, parce qu'on sait qu'il sera discuté dans l'année, parce que voilà, c'est tous les 2 ou 3 mois la semaine transpartisane, donc on sait qu'il va être discuté, c'est juste qu'on ne sait pas quand. Mais en tout cas, il est éligible et il sera discuté, sauf s'il y a dissolution. Évidemment, s'il y a des solutions, on repart de zéro, et là, je te cache pas que ça fatigue un petit peu, hein, quand ça fait plusieurs années qu'on est dans la cause. Donc on espère sincèrement qu'ils soient discutés, sachant qu'aucun texte n'a jamais été discuté à l'Assemblée nationale. Un seul texte a été discuté, c'était au Sénat en 2023.
Alors que pensez des réactions publiques de certains députés face aux critiques visant la PPL 819 ?
Là, c'est pareil, on a eu beaucoup de messages en off. Mais par contre, je préfère te dire qu'on a publié volontairement une communication publique d'un député, un député ciotiste qui a pris parti pour la PPL 819. Et je vais pas lire son texte, hein, je suis pas là pour faire la promotion d'un député ou quoi que ce soit, mais j'invite chacun et chacune à vous cliquer toujours pareil sur défendre-enfant.eu, vous cliquez sur FAQ, fera la question, et vous allez voir, on a mis la capture d'écran de la réponse du député ciotiste. Voilà, c'est je laisse chacun juger de sa réponse, mais je pense qu'elle a fait mouche.
Alors les associations opposées à la résidence alternée affirment que les pairs ne la demandent pas, est-ce que c'est vrai ?
Bon, pareil, affirmation trompeuse, je crois que j'ai déjà donné les chiffres, je te les rappelle, ça montre clairement que les pairs demandent majoritairement à être pleinement impliqués dans la vie de leur enfant. En cas de désaccord entre les parents, 87,5% des pairs demandent soit une résidence alternée, soit la résidence principale de l'enfant chez eux, voilà. C'est clair. Je rappelle que c'est l'étude du ministère de la Justice 2012-2013, hein, donc source fiable et vérifiable.
Est-ce qu'on peut reparler un petit peu de Christine Le Nabour, auteure de la proposition de loi 819?
Oui, moi je l'ai rencontrée. C'est vraiment impliquée dans la cause. Donc c'est une députée bretonne de Vitré, donc c'est à l'est de Rennes. Je disais qu'elle était vice-présidente à la délégation aux droits de l'enfant. Elle est aussi membre de la commission des affaires sociales. Donc, je rappelle aussi qu'elle a été, à l'arrivée de la marche pour l'égalité parentale en 2021. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est engagé dans la cause depuis des années. Hein. Elle n'est pas sortie du chapeau. Après, je ne vais pas parler de sa vie privée, mais elle est vraiment impliquée dans la cause et elle sait de quoi elle parle. Donc, si elle veut parler de sa vie privée, elle le fera elle-même. Moi, je ne suis pas là pour évoquer.
Alors pour terminer, que répondrais-tu à ceux qui justement vous qualifient le collectif Défendre les enfants d'un mouvement d'extrême droite?
Ouais, moi je me répète, hein, je suis désolé Tony, mais non, comme, enfin non, non et non. Voilà, c'est absolument faux. Voilà, c'est une accusation infondée, ça relève d'une stratégie de disqualification politique. Voilà, je rappelle que Défendre les enfants, on est apolitique, on est 81 personnes, plus les personnes qui étaient en liste d'attente, enfin bref, on est une centaine derrière ce collectif, et je peux te dire que quand on débat entre nous, voilà, il y a des gens de gauche, de droite, il y a vraiment de tout, donc c'est, nous on est là, on s'est juste rassemblés autour des trois thématiques: la mise en place de la résidence alternée comme principe de base après une séparation, la réforme de l'aide sociale à l'enfance, parce qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements, de toute façon, donc là, si on parle de ça, ça va durer pendant des heures, et surtout la reconnaissance de l'exclusion parentale comme une forme de maltraitance, parce que je suis désolé, mais c'est un parent qui ne voit plus ses enfants, bah c'est une maltraitance, hein, qu'on le veuille ou non, c'est une maltraitance et pour les enfants et aussi pour les adultes qui la vivent.
Merci à Fabien Wald pour cet échange éclairant, et si vous souhaitez en savoir plus sur les actions du collectif Défendre les enfants ou soutenir la proposition de loi 819, rendez-vous sur leur site internet défendre-les-enfants au pluriel.eu. Et comme toujours, je vous convie vivement à partager le podcast de cette interview sur les réseaux sociaux. Allez, ciao!